VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Gabon, les anomalies observées lors de l'élection présidentielle dans le pays le 27 août 2016 mettent en question le résultat final du vote qui s'est traduit par la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Telles sont les conclusions des observateurs de l'Union européenne pendant le scrutin. Conclusion présentée aujourd'hui à Libreville. Anna Bertson.
Les observateurs mettent essentiellement en cause les résultats dans l'une des 9 provinces du Gabon, le Haut-Ogooué, fief électoral d'Ali Bongo, où le président sortant a officiellement obtenu 95,47% des voix pour 99,93% de participation. Il est à noter que les résultats de cette province ont inversé la tendance constatée par la mission sur la base des résultats annoncés par les gouverneurs des 8 autres provinces du pays, souligne le rapport. Le document met en cause ce taux de participation, rappelant que le taux de participation au niveau national sans le Haut-Ogooué s'évalue à 54,24%.
En République démocratique du Congo, la majeure partie de l'opposition appelle à la retransmission en direct des négociations dites de la dernière chance à moins de 10 jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Le point avec Jean-Roger Bion.
Bruno Tshibala, porte-parole du rassemblement, a exigé hier la retransmission en direct des débats pour que l'opinion soit informée. Lambert Mende, porte-parole des partisans de l'accord politique d'octobre, passé entre la majorité et la frange minoritaire de l'opposition, a répondu qu'il n'était pas question de retransmettre en direct ces négociations. Sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, elles mettent face à face les partisans de l'accord en question et le rassemblement derrière l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Ces négociations qui ont démarré jeudi ont été suspendues le lendemain. Elles doivent reprendre demain mardi et se terminer au plus tard le jeudi 15 décembre 2016. Le rassemblement a annoncé qu'à l'issue des travaux, M. Étienne Tshisekedi s'adressera à la nation quelques jours avant la fin du mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre prochain.
Au Congo-Brazzaville, les organisations de la société civile dénoncent de multiples violations des droits de l'homme. 8 mois après le déclenchement de la crise électorale le 4 avril dernier, les ONG estiment que les arrestations arbitraires et la torture sont en augmentation dans le pays. Les précisions de Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral.
Depuis le référendum en 2015 et ensuite il y a eu les élections présidentielles le 20 mars 2016 et depuis lors il y a eu pas mal des arrestations arbitraires et il y a eu effectivement des tortures, les enlèvements à 2h du matin et contrairement à la législation nationale de notre pays. On a projeté les images de torture que les citoyens subissent et ce qui fait que la torture est réelle dans notre pays.
Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral au Congo-Brazzaville. Afrique de l'Ouest maintenant, Ghana, après son élection dès le premier tour à la présidence de son pays, l'opposant historique ghanéen Nana Akufo-Addo devra se mettre rapidement à la tâche face aux multiples défis qui ont probablement contribué à la défaite du président sortant John Dramani Mahama. Pamela Elenga Bous, une étudiante congolaise à Accra, parle des défis auxquels fait face le nouveau président ghanéen.
Il a trop de défis à relever. La monnaie qui perd sa valeur chaque mois. Il y a la dépréciation du cédille ici, il y a l'électricité. L'école coûte quand même cher ici. Il a promis des écoles gratuites, il a promis ça. Il y a des grands défis à relever. L'économie, l'électricité, le problème d'énergie, le coût de la vie. En somme, ce que les gens disent, c'est quelqu'un d'abord qui a les capacités pour relever les défis. Ensuite, il a beaucoup de connexions avec l'extérieur, les marchés. Voilà, ça va apporter beaucoup d'opportunités au pays. Ça va faire entrer le marché, ça va faire entrer l'argent. C'est ça qu'il a en fait.
Pamela Elenga Bous, étudiante congolaise jointe à Accra au Ghana. Nigeria, 2 fillettes se sont fait exploser dimanche dans un marché très fréquenté de Maïdougouri dans le nord-est du pays, faisant au moins un mort et 17 blessés selon des témoins. Ce double attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais le procédé utilisé est celui du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, qui a souvent eu recours à des femmes et des jeunes filles pour perpétrer des attaques contre la population.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, 25 millions de dollars ont été mobilisés pour le DDR, le Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, au cours d'une rencontre entre le gouvernement malien et ses partenaires. Comme nous le rappelle notre correspondant Mamako Kassim Traoré, le DDR constitue une phase capitale dans l'application de l'accord de paix d'Alger.
Le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, ou DDR, c'est par là que toute l'application de l'accord d'Alger devrait commencer, pour éviter les réunions interminables entre le gouvernement et les groupes armés. Zabi Ouldou Sid Mohamed, président de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion.
Ce document prévoit à peu près, pour le coup du programme de la réinsertion des ex-combattants, un budget d'environ 50 millions de dollars. Et cette table ronde qui a permis de mobiliser déjà 50% de ses ressources. C'est un programme qui va s'étaler sur 3 à 4 ans. L'État malien a participé à ces financements, donc jusqu'à concurrence de 10 milliards, et le reste, c'est les partenaires.
Les DDR concernent 1000 combattants des groupes armés. Chaque combattant sera cantonné dans un premier temps pendant 45 jours sur les 8 sites de cantonnement identifiés.
Les responsables des différents mouvements armés vont nous donner les listes de leurs combattants armés et par région. Les sites qui sont situés dans la région vont accueillir ces combattants. Le combattant fera une interview avec des choix. S'il veut aller dans le corps habillé, des choix s'il veut aller à la fonction publique ou des choix pour la réinsertion dans sa communauté d'origine. Et une fois que cela est fait, nous aurons une banque de données claire. Il aura une carte de démobilisé.
Le DDR ne sera pas une exclusivité pour les seuls combattants des groupes armés de la CMA et plateforme. Il concerne tous les groupes armés des différentes régions du Mali, précise Zabi Ouldou Sidi Mohamed.
Le processus, il est inclusif par nature. Tu n'as pas besoin forcément de passer par plateforme ou CMA. S'il y a des groupes armés, le désarmement, c'est la responsabilité de l'État malien. Donc sur ça, il n'y a aucune ambiguïté. Ceux-ci ont leurs combattants et les autres, c'est d'autres groupes armés. Ils peuvent être éligibles tant que c'est des Maliens, ils sont éligibles au programme. Ils vont passer aussi par le même processus. Nous n'allons pas nous enfermer dans les petites querelles plateforme SEMA.
Le programme prévoit également des projets pour aider les populations victimes de violences au nord, comme partout au Mali.
Nous aurons un volet qui va aux ex-combattants, mais on aura un volet qui va aussi aux communautés victimes de la violence. Et parmi ces communautés victimes de la violence, nous avions par exemple l'association des veuves des victimes des conflits du Nord. Maintenant, l'inclusivité toujours, les communautés aussi auront des projets de réinsertion parce que beaucoup de communautés ont été victimes de la violence et il faudrait que ces communautés aussi bénéficient du programme.
Une fois que le DDR fonctionne dans une localité, aucun autre groupe ne sera autorisé à faire des mouvements en dehors des patrouilles mixtes.
Parce que là, les règles seront claires. Puisque actuellement, vous avez tout le monde circule avec pavillon de mouvement et tu circules et on dit oui, il est de la CMA, il est de la plateforme. Là, il n'y en a plus. Une fois que le désarmement est fait dans une zone, en tout cas, il n'y a plus d'excuses pour nos partenaires, les nations, l'AMINUSMA et Berkane de laisser des convois comme ça circuler.
Le programme désarmement, démobilisation et réinsertion DDR est déjà en marche. Il se veut une mission de terrain et non de bureau. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
New York, le futur secrétaire général de l'ONU prête serment ce lundi. Le Portugais Antonio Guterres accédera à son poste lors d'une cérémonie très officielle à l'Assemblée générale de l'ONU. Puis il présentera aux 193 pays membres ses projets face aux multiples crises mondiales et pour réformer l'institution vieille de 71 ans. Premier ex-dirigeant d'un pays à accéder à la tête de l'ONU, Antonio Guterres prendra la succession du Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier. Quelques semaines seulement avant l'investiture du milliardaire républicain Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Turquie, le bilan du double attentat de samedi à Istanbul s'est alourdi à 44 morts, dont 36 policiers, selon l'agence officielle turque Anatoli. L'attaque menée près d'un stade de football après un match du championnat de Turquie a été revendiquée par le groupuscule extrémiste kurde TAK, Faucon pour la liberté du Kurdistan, proche du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'attaque a également fait 150 blessés. Le précédent bilan était de 38 morts. Suite à ce double attentat, la police turque a arrêté aujourd'hui plus d'une centaine de responsables du Parti démocratique des peuples, HDP pro-kurde, qu'elle dit soupçonner de lien avec le PKK. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Oui, oui.